Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Une amie de la famille et La vie des morts, de Jean-Marie Laclavetine. Une amie de la famille, en 2019, est le récit intime poignant que l'écrivain avait consacré à sa sœur aînée, Annie, morte noyée à 20 ans, emportée par une vague près du phare de Biarritz, à l'automne 1968. L'auteur a écrit « Le 1er novembre 1968, alors que nous nous promenions sur les rochers qui surplombent la chambre d'amour à Biarritz, ma sœur aînée a été emportée par une vague. Elle avait 20 ans, moi 15. Il aura fallu un demi-siècle pour que je parvienne à évoquer ce jour et interroger le prodigieux silence qui a dès lors enseveli notre famille. Je suis parti à la recherche d'Annie. Je l'ai vue revenir, intacte dans sa fougue, ses doutes, ses enthousiasmes, ses joies et ses colères, une jeune femme d'aujourd'hui. La vie des morts, en 2021, s'inscrit juste après une amie de la famille. La perte avait été si violente, si brutale pour tous, que ça n'était suivi un écrasant silence. 50 ans étouffés sous un deuil indicible, le blanc de la séparation envahissant le moindre souvenir effaçant la vie, le livre était parvenu à secouer l'oubli. Il avait permis qu'Annie revienne finalement parmi les siens. Ce nouveau texte continue la démarche et pousse bien plus loin à la quête. Pendant les 5 années où il a survécu au décès de son épouse Jeannine, le père de Jean-Marie Laclavetine et aussi le père d'Annie s'était progressivement retranché dans une solitude égarée. Un monde entre deux, peuplé d'absents avec lesquels il entretenait de secrets dialogues. Une manière de retrouvailles douces avec ses disparus. Et pour tenter d'en faire comprendre un peu, d'en dire quelque chose aux autres, il murmurait « La vie des morts, la vie des morts ». Si ces mots font aujourd'hui le titre de ce nouveau récit, c'est parce qu'ils rendent compte, justement, de l'étonnante et paradoxale présence dans nos existences, dans nos pensées, de ceux qui pourtant ne sont plus, de ceux qui nous ont quittés. Jean-Marie Laclavetine a dit « La littérature, c'est réveiller les morts, c'est le combat intime et profond, sans issue, qui permet aux vivants de parler avec les morts. » Jean-Marie Laclavetine est né le 17 février 1954 à Bordeaux. Il s'installe en Touraine à l'adolescence, après une enfance à Bordeaux et après la mutation de son père, cheminot à la SNCF. En 1981, il publie son premier roman, Les Emmurés, dans la collection Le Chemin, animé par Georges Lambridge. En 1991, il intègre le comité de lecture de Gallimard, mais choisit de rester vivre et travailler à Tours. En 1999, il décroche le prix Goncourt des lycéens avec son roman « Première ligne », regard ironique sur la vie littéraire. Parmi ses œuvres, « Loin d'Asverda » en 1982, « Donna Fugata » 1987, prix François Mauriac, « Le voyage au Luxembourg » en 2000, « Œil pour œil » 2001, « Le pouvoir des fleurs » 2002, « Nous voilà » en 2009, le prix du roman historique des rendez-vous de l'histoire de Blois. En 1994, il publie « Le rouge et le blanc » chez Gallimard, grand prix de la nouvelle de l'Académie française, recueil dont le vin est le thème fédérateur. Son ouvrage « Une amie de la famille », un récit autobiographique, a été publié en 2019. Il a été suivi de « La vie des morts », écho au précédent, en 2021. Traducteur, on lui doit des traductions d'Alberto Savigno, Giuseppe Antonio Borges, Leonardo Sciascia, Vitaliano Brancati ou Alberto Moravia. Depuis plusieurs années, Jean-Marie Laclaftine fait partie de la rédaction de Ciné Hebdo, devenu Ciné Mensuel. Entre Bordelais et Pays de Loire, le vin occupe une place importante dans son œuvre, tout comme Rabelais auquel il a consacré un essai en 1992. Il faut que je te raconte, il faut vraiment que je te raconte, Annie. Puisque depuis un demi-siècle, nous ne sommes plus parlé. 52 ans pour être précis. Je voudrais me souvenir des dernières paroles que nous avons échangées quelques minutes avant ta mort, mais elles se sont évanouies. C'était sans doute des phrases concrètes et banales à propos du crachin aigrelé qui fouettait nos joues ce jour-là, des mises en garde concernant les rochers glissants, des observations sur le paysage, sur la montagne de la Rune dont la silhouette de buffle endormie venait de percer la brume au-dessus de la baie de Biarritz, ou une blague envoyée à pleine voix pour surmonter le bruit des vagues dans l'excitation joyeuse du moment, parce que la mer était bruyante ce premier jour du mois de novembre 1968 où tu as été emporté, et joyeux nous l'étions, oui, cela du moins est impossible à oublier. Je veux m'adresser à toi comme si tu étais vivante. Voilà pourquoi je t'écris. Pour interroger la persistance de ton image sur nos rétines, vérifier ta permanence, ton obstination à vivre encore, avec à tes côtés la compagnie de plus en plus nombreuse et remuante des disparus. Ce n'est pas un reproche. Écoute, écoute donc ma vieille sœur qui aura toujours 20 ans, mon impérissable frangine. Existes-tu moins que moi, moins que nous, moins que ce qui reste? Es-tu vraiment moins vivante que les vivantes? Ce n'est pas l'impression que j'ai en regardant beaucoup d'entre eux. Tu as fait un passage parmi nous entre le 3 mai 1948 et le 1er novembre 1968. Ce n'est pas énorme, 20 ans, mais c'est assez pour se révéler inoubliable, même quand on est par Rimbaud, qui à cet âge avait déjà rangé ses crayons et bouclé sa valise, balancé aux orties ses poèmes et ses frasques pour s'en aller chercher ailleurs le lieu et la formule. Même quand on n'est pas Alexandre, qui à ton âge avait déjà fondé la moitié de l'Empire, même quand on s'est contenté de naître, de semer quelques éclats de rire et quelques coups de gueule avant de mourir par inadvertance un jour de Toussaint, avalé par une vague vorace sur les rochers de la chambre d'amour. J'ai écrit un livre sur toi, sur les 50 ans de silence qui ont englouti notre famille après ta disparition, sur cette énorme vague qui n'en finissait pas d'enfler avant de se briser pour nous rouler sur le sable du temps, puis se retirer, enfler de nouveau, se briser encore interminablement. Le récit s'intitule « Une amie de la famille ». Sur le bandeau du livre figurait une photo de toi prise sur une plage, en compagnie de Marraine, notre grand-mère. Je l'avais trouvée dans un album récupéré après la mort de notre père, parmi tant d'autres images. J'ignorais qu'il avait prise. Et sur quelle plage? Je le sais maintenant. Le photographe s'est manifesté après l'apparition du livre comme tant d'autres fantômes qui traversaient mon récit, dont je citais les noms pour les avoir trouvés dans des journaux de l'époque ou dans des lettres, et qui ont tenu à me faire savoir qu'ils étaient toujours de ce monde. C'est d'eux que je voudrais te donner des nouvelles, Annie. Des nouvelles de nous, les vivants, de quelques morts aussi, et de ta vie parmi nous qui suit son cours. C'était si étrange de voir ton visage souriant dans les vitrines des librairies, toi qui n'avais naguère eu le temps d'imposer ta présence sur notre terre lors de ta fugace apparition, de contempler ton sourire sur les étals comme une revanche. Les livres ont ce pouvoir, tu vois. Ils sont le territoire où les vivants et les morts peuvent coexister à jamais. Homère, Rabelais, Cervantes, Volt, Shakespeare, Duras, Tolstoï, Beckett et tous les autres. Qu'ont-ils fait d'autre que battre en brèche les murailles qui séparent nos villes de leurs cimetières? Un écho à ceci, citons cette phrase culte. Les vivants ferment les yeux des morts, mais les morts ouvrent les yeux des vivants. On la doit à Gabriel Gasarskorm, de parents juifs polonais immigrés en France et obligé de modifier son nom en Marance pour échapper aux nazis. La fusion des deux noms donnera Garant, sa famille ayant été décimée. La mort, aussi abordée par le poète René Armand François Prudhomme, dit Sully Prudhomme dans son recueil « La vie intérieure », les yeux. Bleu ou noir, tous aimés, tous beaux, des yeux sans nombre ont vu l'aurore, ils dorment au fond des tombeaux et le soleil se lève encore. Les nuits plus douces que les jours ont enchanté des yeux sans nombre, les étoiles brillent toujours et les yeux se sont remplis d'ombre. Oh, qu'ils aient perdu le regard. Non, non, cela n'est pas possible. Ils se sont tournés quelque part vers ce qu'on nomme l'invisible. Et comme si les astres penchants nous quittent, mais au ciel demeurent, les prunelles ont leur couchant, mais il n'est pas vrai qu'elles meurent. Bleu ou noir, tous aimés, tous beaux, ouverts à quelques immenses aurores, de l'autre côté des tombeaux, les yeux qu'on ferme voient encore. Sully Prudhomme est né à Paris le 16 mars 1839. Après avoir travaillé au Creusot dans les usines Schneider de 1858 à 1860, il était l'ami d'Henri Schneider, avec qui il avait fait ses études au lycée Bonaparte. Il se tourne alors vers le droit et travaille chez un notaire. Son premier recueil, Stances et poèmes en 1865, est loué par Sainte-Beuve et lance sa carrière. Il renferme son poème le plus célèbre, Le vase brisé, élégante métaphore du cœur brisé par un chagrin d'amour. Il est élu membre de l'Académie française en 1881. C'est le premier écrivain à recevoir le prix Nobel de littérature le 10 décembre 1901 et il y consacre l'essentiel de la somme reçue à cette occasion à fonder un prix de poésie décerné par la Société des gens de lettres. Il sera partisan de Dreyfus. Sa santé avait été durablement ébranlée par la guerre de 1870. Sur la fin de sa vie, elle le contraignit à vivre une forme de réclusion à Châtenay-Malabry, souffrant d'attaques de paralysie et travaillant à sa dernière œuvre, La vraie religion selon Pascal en 1905. Mort subitement le 6 septembre 1907, il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise, à Paris, 44e division. C'était la chronique littéraire de Gilles Labourois. À bientôt.